Europe 1.
T'as qu'à leur dire, Django veut le même cachet que Claque de vol.
Tous les jours sur Europe 1.
Soyez maudits!
Historiquement vôtre.
The successor to the kings and queens of history.
Maudits! Jusqu'à la 13e génération de mon rêve!
Il paraît que le roi, votre frère, n'est pas très bien membré.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et à tous, Clémentine, Jean-Luc, David,
bonjour à tous.
Et bonjour à celui qui est avec nous aujourd'hui, notre globe-trotteur de l'histoire, Gavin Clemente Ruiz.
Bonjour à tous.
Je suis ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter, en compagnie de personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, qui ne vivaient pas à la même époque, mais qui ont un point commun. Aujourd'hui... Et non, chère Céline. Alors, ils n'ont pas gagné l'Eurovision, hein, mais ils ne sont tellement pas partis qu'ils ont vécu toute leur vie dans la même ville. C'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi. Et avouez que ça, c'est du thème. Hein. À commencer par le peintre Johannes Vermeer, né dans la petite ville de Delft, à l'ouest des Pays-Bas. Une ville où il a passé toute sa vie, une ville qu'il a peinte aussi avant de s'orienter vers un autre exercice qui va devenir sa spécialité, la scène de genre emplie d'éclat et de poésie, à l'image de la laitière, la toile, hein, pas les yaourts, Jean-Luc, et où la jeune fille à la perle.
Merci, vous êtes bien aimable.
Ah bah, vous vous vengez dans le coup, Isabelle.
Oui, tout à fait, c'est bonne guerre.
Puis je vous raconte une écrivaine et poétesse inconnue de son vivant, aujourd'hui reconnue dans le monde entier, elle qui ne l'était que de son quartier, dans la petite ville d'Amherst, dans le Massachusetts, où elle a passé toute sa vie, l'américaine Emily Dickinson. Et après les morts, les vivants, ou plutôt les fictifs, hein, aujourd'hui, c'est vous, Jean-Luc, qui dresserez vers 17h30 le portrait de nos troisièmes personnages du jour. Oui, je dis nos troisièmes, parce qu'ils sont plusieurs. En fait, c'est même toute une tribu, une famille.
Ah oui, et pas n'importe quelle famille. L'une des familles de fiction les plus célèbres du monde qui squattent le petit écran depuis 34 ans. 34 ans qui n'ont pas pris une ride sur leur teint jaune. 34 ans qui vivent dans la même ville de Springfield. Je vous raconte la folle vie des Simpsons aujourd'hui.
Oh, dis donc.
Mais quel talent d'imitation.
Pas mal.
Pinaise.
Oh, dis donc. Pinaise. Oui. En tout cas, ils forment une famille eux aussi. Une famille qui passe toute sa vie dans le même studio de radio. D'abord, celle qui nous entraîne dans l'intimité de l'histoire, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. De qui nous parlez-vous ?
Du premier maire de Paris, désigné par la Révolution française. Ah oui ? Il est né à Paris, mort à Paris. Jean-Sylvain Bailly, c'était un grand savant, un mathématicien, un astronome. Vous voyez, Bailly, maire de Paris, c'est un peu comme si Cédric Villani avait gagné les municipales. Ben oui, c'est ça. C'était le savant. Vous allez voir, vous allez découvrir le pédigré du un homme extraordinaire. Oui. Qu'est-ce qu'il est allé faire de la politique
avant de ricaner. Oui. Écoutez,
c'est
d'abord.
Ça. Tout à l'heure, vous ricanerez moins parce que il était membre de trois académies.
C'est ça. Si vous avez ricané.
Alors, il remonte aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession, souvent la sienne. Oui. Aujourd'hui, on reste aussi à Paris avec vous, David Kessel-Lopez, vous nous parlez...
La Tour Eiffel. Bon, alors, on sait un peu d'où elle vient, mais il y a quand même pas mal de petites choses sympas à dire sur ses origines. Je vous en parlerai, ça va être super.
Très bien, les origines, c'est en toute fin d'émission et juste avant, comme dirait l'autre.
Mais ailleurs, quelle époque, mais ailleurs, quelle époque.
Ça s'est passé dans le passé, aujourd'hui on remonte pas si loin, au milieu du XXe siècle, une époque très flower power où la route des Indes était à la mode et les utopies se multipliaient. On quitte donc Paris pour les Indes, on part à la découverte avec vous, Gavin Clemente Ruiz, d'une communauté humaine autogérée, mais qui est toujours bien présente.
Exactement Stéphane, je vous emmène à Auroville, dans le Tamil Nadu, c'est au sud de l'Inde. C'est un mélange d'utopie, mais aussi de réalité. Est-ce que ça marche vraiment ? On verra ça tout à l'heure.
Mes aïeux, quelle époque ? Ce sera tout à l'heure vers 17h40. Mais avant cela, heureusement, il y aura le quiz.
Bah oui, le quiz. Hein, je ne sens pas enthousiaste.
Je suis très enthousiaste. Je suis ravi de faire ce quiz avec vous.
Bien sûr, parce que ce quiz, c'est un petit moment de stress pour vous, je comprends. Il faut dire que le monsieur histoire est testé sur son propre territoire, un peu comme si on posait des questions cinéma, Pierre Tchernia, ou des questions littérature à Jean Dormesson.
Ouais, ça va être plus difficile maintenant. Mais je...
Bon alors, je des questions jardinage à Stéphane Marie.
Voilà, je préfère quand vous prenez des exemples
des
de gens vivants.
Ils le sont dans nos cœurs, Stéphane.
Oui. Ils sont inoubliables. Allez, pour l'heure, je vous raconte le premier personnage du jour.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern.
S'il fut bien moins prolifique que son compatriote Rembrandt, il reste comme lui l'un des plus grands peintres hollandais du XVIIe siècle, dont les rares toiles à l'éclat plus vrai que nature illuminent encore les regards du monde entier. Je vous raconte maintenant ce que l'on sait de la vie mystérieuse de celui qui a vécu toute sa vie à Delft, à l'ouest des Pays-Bas, Johannes Vermeer. Les aiguilles de l'horloge de la porte de Schiedam indiquent 7 heures passées de 10 minutes. Le temps est suspendu sur la toile, comme la ville de Delft, au lever du jour, suspendue elle aussi, entre l'eau immobile et les nuages épais. Les toits rouges se découpent en lignes géométriques sur le ciel immense que baigne la lumière blanche du matin. On distingue la porte de Schiedam, le clocher de la Nieuwe Kerk de Delft, la porte de Rotterdam, et sur les quais auxquels des bateaux silencieux sont amarrés, quelques rares passants passent. Le paysage est paisible et puissant, et éblouissant de clarté en même temps. Ce tableau, Johannes Vermeer a mis certainement des mois à le peindre, probablement vers 1660-1661, depuis la rive sud du canal de la Schie, dans sa petite ville natale qu'il représente si bien, Delft, située à l'abri entre La Haye et Rotterdam aux Pays-Bas. L'artiste n'a pas encore 30 ans, mais signe là encore un chef-d'œuvre. Il y en a beaucoup parmi les quelques 37 toiles connues et authentifiées du maître hollandais. Presque toutes témoignent du même génie, l'art de peindre pendant des heures pour parvenir pourtant à saisir un seul instant fugace, à illuminer un infime moment de vie, à peine le temps qu'un rayon de soleil perce les nuages avant de se voiler de nouveau. Pour cela, et afin de donner à l'œil du spectateur l'illusion parfaite du scintillement de la lumière du jour, Vermeer utilise une technique bien précise. Il applique sur la toile de minuscules et multiples points de peinture clairs et brillants, de discrets rehauts lumineux que l'on retrouve aussi dans ses œuvres, la laitière, la dentelière ou encore la jeune fille lisant une lettre devant une fenêtre ouverte. Parmi les toiles du maître hollandais, cependant, cette vue de Delft que je viens de vous décrire demeure une exception à plusieurs égards. Elle est d'abord celle de la renaissance de l'artiste au XIXe siècle, lorsque le critique d'art français Théophile Thoré, sous le nom de William Burger, chante le premier ses louanges après avoir découvert son tableau à La Haye. « Le trait le plus remarquable de Vermeer est la qualité de sa lumière », écrit-il dans la Gazette des Beaux-Arts. Sous sa plume, dès 1866, Jan Vermeer, comme on l'appelle aussi, sort ainsi définitivement de l'oubli. Car Théophile Thoré n'est pas le seul à tomber en émoi devant sa peinture. Marcel Proust, entre autres, se trouve tout aussi bouleversé par la vue de Delft et achève de rendre la toile célèbre en faisant mourir devant elle l'un de ses personnages de La Recherche. L'écrivain Bergot, dans le livre La Prisonnière, est comme foudroyé à la vue, je cite, du petit pan de mur si bien peint en jaune. La vue de Delft se distingue également des autres œuvres de Johannes Vermeer par son sujet. Elle est en effet l'un des deux seuls paysages urbains qu'il a peint. Le second, plutôt le premier, devrais-je dire, Vermeer l'a réalisé un ou deux ans auparavant. Il représente l'une de ces maisons en briques rouges typiques des villes du Nord dans une ruelle, la ruelle c'est son nom, de Delft bien sûr. La ville de Vermeer est un foyer artistique important du siècle d'or hollandais que l'artiste ne quittera probablement jamais, si ce n'est peut-être pour quelques séjours dans le pays. Concernant celui que Théophile Thoré a surnommé le Sphinx de Delft, on ne peut être trop affirmatif car la vie du peintre, à l'image de ses toiles, est nimbée de mystère. Entre les zones d'ombre, toutefois, quelques indices nous éclairent. Johannes Vermeer, baptisé le 31 octobre 1632 à Delft, est le fils de Dinia Baltins et de Rény Vermeer ou Van der Meer. En 1641, son père acquiert une auberge, l'auberge Mechelen, sur la place du marché de Delft où il s'installe avec sa famille. En plus d'être hôtelier, Reinier Vermeer est fabricant de soie, marchand de tableaux, peintre et membre de la guilde de Saint-Luc où sont admis au XVIIe siècle artisans, artistes et marchands d'art. À 21 ans, Johannes marche dans ses pas et intègre la guilde à son tour. Mais son père, mort l'année précédente, n'est hélas plus là pour le voir. Il n'assiste pas non plus au mariage de son fils avec Katharina Bollnäs, le 20 avril 1653. Cette union, dont naîtront tout de même 15 enfants, ne fait pas le bonheur de tous. Elle est catholique, lui calviniste, une opposition qui fait douloureusement écho à celle des Pays-Bas, pays scié en deux depuis que l'Espagne a reconnu en 1648 par le traité de Münster l'indépendance des provinces unies du Nord à majorité protestante, tandis qu'elle gardait la main sur les provinces catholiques du Sud. En plus d'inciter Vermeer à se convertir, sa belle-mère, Maria Tins, issue d'une famille aisée de Gouda, déplore les revenus modestes de l'artiste et s'emploie donc à aider financièrement le couple. Il est vrai que Johannes Vermeer, loin d'être un peintre prolifique, vit de son activité de marchand d'art plus que de la vente de ses propres tableaux. Ses œuvres sont rares, mais leur beauté l'est tout autant. Elles n'ont pas la noblesse intimidante des toiles de Rembrandt, plus intimistes, plus délicates. Leur splendeur réside au contraire dans une simplicité trompeuse. On lui attribue deux tableaux bibliques. Sainte Praxède et le Christ dans la maison de Marthe et Marie, ainsi qu'une scène mythologique, Diane et ses compagnes. Vermeer signe ses trois peintures en début de carrière vers 1655, puis c'en est fini pour lui des sujets antiques chers aux académiciens de son temps. À 24 ans, l'artiste se tourne définitivement vers un autre exercice qui va devenir sa spécialité, la scène de genre emplie d'éclat et de poésie. « C'est la vie même », écrit le critique Théophile Thoré, pour décrire ces instants furtifs du quotidien capturés par Vermeer et magnifiquement immortalisés sur ses toiles. Il s'agit de scènes d'intérieur, représentant parfois plusieurs personnages. C'est le cas notamment de l'entremetteuse signée en 1656. Le premier des trois seuls tableaux datés par le peintre avec l'astronome en 1668 et le géographe en 1669. Mais le plus souvent, les chefs-d'œuvre de Johannes Vermeer mettent en lumière un personnage féminin, la lumière au sens propre. La lumière chez Vermeer est d'un tel naturel qu'on soupçonne le peintre d'avoir utilisé une chambre noire pour exagérer les contrastes imperceptibles à son œil nu et pouvoir les rendre sur la toile. Encore une hypothèse invérifiable sur l'œuvre énigmatique du Hollandais. Sous son pinceau, le jour traverse parfois une fenêtre et transperce l'espace pour se poser sur le visage d'une liseuse à sa fenêtre, de la plus célèbre des laitières, de la femme à la balance, de la femme au collier de perles, de la femme aux luttes ou d'une jeune femme à l'aiguillère. Parfois, la lumière se fait plus mystérieuse, sans dire d'où elle vient. Elle illumine l'emblématique jeune fille à la perle ou la dentelière qui fascinait Renoir. Au fil de ces scènes de genre, datant pour la plupart des années 1660, Vermeer atténue les tons chauds de ses premières œuvres. Le rouge de la jeune fille endormie, le premier de la série, peint vers 1657, s'estompe pour faire primer le bleu et le jaune. Bleu comme les prestigieuses faïences de Delft, jaune comme l'âge doré que vit alors la Hollande. Une république de marchands riches et prospères qui domine le commerce maritime et fait des envies en Europe, à commencer par Louis XIV. L'invasion française qui leur donne en 1672 cause une crise économique dévastatrice qui ruine le marché de l'art aux Pays-Bas et Johannes Vermeer n'y échappe pas. Trois ans plus tard, le peintre meurt sous le poids de ses dettes, à l'âge de 43 ans seulement. Alors qu'il était suffisamment reconnu de son vivant pour avoir été élu syndic de la guilde de Saint-Luc à deux reprises, Vermeer tombe dans l'oubli pour deux siècles. Aujourd'hui, il n'a toujours pas quitté sa ville natale où il repose à Oudekerk. Mais sa notoriété, elle, a très largement franchi l'enceinte de la petite ville de Delft.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Johannes Vermeer avec Clémentine Portier-Kaltenbach, nous avons le plaisir d'accueillir un conservateur qui le connaît sur le bout des doigts. Bonjour Blaise Ducos.
Bonjour Stéphane Bern, merci de votre invitation.
Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes conservateur en chef, responsable des peintures flamandes et hollandaises au musée du Louvre. Vous avez été le commissaire de l'exposition Vermeer et les maîtres de la peinture de genre qui s'est tenue au Louvre en 2017. Quelle place occupe pour vous Vermeer au sein des peintres hollandais de sa génération et en quoi est-il à part ?
Alors en fait, nous sommes victimes d'une erreur de perspective, puisque aujourd'hui, Vermeer, Rembrandt, ce sont des gens qui sont tout en haut du podium, numéro un, ex aequo peut-être, on peut discuter. Mais en réalité, à l'époque, ce n'était pas forcément le cas. L'artiste Vermeer, c'est quelqu'un de célèbre, mais il y en a beaucoup. Ce qu'il faut considérer, c'est que c'était une pépinière de petits génies, et il était un de ces petits génies. Et c'est un dialogue permanent avec d'autres peintres qui a nourri, qui a entretenu en permanence son œuvre à lui.
Alors, Vermeer a conçu, je l'ai rappelé, 37 toiles, c'est finalement très peu. Comment vous expliquez qu'il ait réalisé aussi peu d'œuvres ? Chacune lui prenait un temps infini ou il était trop occupé à être marchand d'art ?
Alors, l'argument de la méticulosité du temps qui est passé infini sur tel ou tel tableau, bon, on en a 37, mais il y en avait d'autres. Donc, il y a toujours l'idée d'une quête. C'est ça aussi le mystère, c'est qu'on peut en retrouver. Vous avez parlé de vues, de paysages, on en connaît deux. En fait, il y en a trois, mais le troisième, on n'en a qu'une trace écrite. Donc, il y a le rêve des conservateurs, des historiens, des marchands, des amateurs, retrouver un ou peut-être plusieurs Vermeer. Pourquoi est-ce que c'est quelqu'un de célèbre ? Mais parce qu'il a, comme vous dites, cette capacité à infuser ses toiles dans la lumière et le mystère. Il y a quelque chose de mystérieux.
Alors, il y a deux toiles, je crois, qui sont conservées au Louvre.
La France possède deux tableaux, l'astronome et puis ce qui, historiquement, est le Vermeer français, puisqu'il est rentré au Louvre en 1870. La dentelière, alors que l'astronome est une entrée, à l'échelle des musées, assez récente.
Mais où sont les 35 autres, je dis en temps normal, parce qu'avec les expositions,
ça bouge.
Elles voyagent, les toiles.
Elles sont évidemment aux Pays-Bas, puisque les Hollandais, dans une démarche identitaire et d'enquête permanente, ont cherché à les faire revenir, alors qu'elles avaient été dispersées. Elles sont beaucoup aux États-Unis aussi. Et puis, le Met en a 5, par exemple. Rendez-vous compte.
Ah oui.
Voilà, donc c'est un sujet permanent de discussion. Parce que toutes ces œuvres, à un moment ou à un autre, étaient à Paris, chez des collectionneurs, à Paris ou sur le marché. Et puis elles ont été vendues. Voilà. Il y en a aussi en Allemagne, bien sûr.
Oh, bah sur 35, en avoir deux, c'est quand même pas si mal. Mais alors, Vermeer, qui est un maître des scènes de genre, tout comme d'autres artistes hollandais et flamands qui étaient ses contemporains, dans une époque où ce qui est à la mode, c'est la peinture historique et mythologique. Donc, est-ce que sont vraiment des Vermeer et ses suiveurs ou ses contemporains qui ont permis à la scène de genre de gagner ses lettres de noblesse ?
Alors, c'est sûr qu'il y a un avant et un après. Il a beaucoup contribué avec ses rivaux, en fait, à bâtir une œuvre collective, la scène de genre sophistiquée, raffinée, qui a lancé un style qui n'est jamais passé de mode. C'est vrai que la peinture d'histoire était au firmament, mais c'est quand même une vision assez française, ou en tout cas italienne, que de penser que la peinture d'histoire, c'est ce qui domine. Au XVIIe siècle, en Hollande, c'est très ouvert. Et la peinture de genre a tout à fait ses lettres de noblesse, et l'argument clé, c'est le marché. Mmh. Ça vaut des fortunes. Et donc, c'est dire qu'il y a une passion pour ces tableaux.
Vermeer, je l'ai dit, n'a pas beaucoup bougé de Delft, sa ville natale où il mourra. On le surnomme même le Sphinx de Delft. Pour autant, vous expliquiez au moment de l'exposition au Louvre en 2017 que la légende d'un artiste isolé dans son monde inaccessible et silencieux s'efface. Il ne voyageait pas, mais pour autant, Vermeer échangeait avec d'autres artistes.
Alors oui, c'est ça le paradoxe, c'est la beauté de la chose, n'est-ce pas ? C'est que c'est un ours. C'est quelqu'un qui ne bouge pas, c'est une amibe Vermeer, il est totalement statique, à part quelques déplacements très brefs dans le pays, bien sûr quand même. Et en même temps, il y a une effervescence autour de lui en permanence. Parce que, encore une fois, il faut envisager la création artistique comme un dialogue entre des petits génies. Et tous ces gens sont en train de s'épier, de se regarder, de se rendre hommage, de se suivre. Et donc, il n'est pas isolé à ce titre. En permanence, ça nourrit son œuvre.
Mais comment vous expliquez alors qu'il ait eu cette image de peintre solitaire qui est enfermé dans sa tour d'ivoire ?
Mais romantisme. C'est du romantisme. C'est une vision rétrospective qui n'est pas vraiment historique.
Expliquez-nous également d'où vient cette maîtrise de la lumière dans ces toiles, aussi bien dans ces paysages que dans ces scènes de gens. Est-ce qu'on sait quelque chose de son parcours académique ? Ou ça, c'est son génie propre et
Alors, en fait, la réponse, c'est on ne sait pas. Donc le grand sport,
oui, mais on
ne
peut pas s'en contenter.
Oui, mais le grand sport, c'est d'essayer de deviner qui l'a formé, parce qu'il a eu des maîtres. Donc on a pensé à des gens à Utrecht, à des gens à Delft, à des gens à Amsterdam. On a pensé à une influence flamande. Donc on a essayé de cocher toutes les cases. On ne sait pas, on n'a aucun document. Et le mystère Vermeer, c'est ça, d'abord et avant tout, c'est cette éclosion d'un génie à partir de on ne sait pas vraiment quoi. Et donc, ensuite, il a cette qualité que vous décrivez de faire pénétrer les spectateurs dans son œuvre de plein pied. Donc, il y a une espèce de simplicité, d'iconographie toute simple, un intérieur, une jeune fille, deux jeunes filles, un astronome, tiens, un homme, c'est très rare chez lui, et il ne se passe pas grand-chose. Et tout est dans l'infusion, dans cette espèce de recueillement, de silence.
Mais Vermeer meurt jeune et endetté, je l'ai raconté. Pourtant, vous expliquez qu'il recevait des commandes de riches acheteurs qui étaient prêts à payer très cher chacune de ses œuvres. Comment vous expliquez alors cette fin malheureuse ?
Le mécanisme de la dette. Quand on est endetté, on n'arrive pas à rembourser. On a beau travailler d'arrache-pied, on n'y arrive pas. Et en plus, les Français ont envahi le pays en 72. Et donc, tout a explosé dans son commerce. Il n'y avait plus rien, plus de commandes, plus rien. Et donc, les dettes ont fait que, en fait, on peut dire qu'il a fait une espèce de burn-out. Il a été foudroyé, tellement le stress de sa situation était grand.
Comme beaucoup d'artistes de son époque, Vermeer a été redécouvert au 19e grâce notamment à un certain Théophile Thoré. Comment a-t-il fait pour rendre Vermeer aussi incontournable ?
Alors ça, c'est aussi une histoire merveilleuse parce qu'en fait, Vermeer doit tout à la France aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui laisse rêveur nos amis hollandais, en particulier au Rijksmuseum, mais en général, que ce soit un historien français, un militant politique républicain, car il était les deux, Théophile Thoré, à qui l'on doive la redécouverte de l'artiste. L'intuition de Thoré, c'est d'avoir perçu que derrière des toiles avec des signatures apocryphes, parce qu'il y avait des signatures qui avaient été apposées a posteriori sur ces tableaux, eh bien il y avait une seule et même personnalité qui irradiait, qui scintillait, qui étincelait, Vermeer. Donc c'est une reconstitution à travers un parcours européen, parce que comme il a été exilé cet homme au moment du Second Empire, lui le républicain, eh bien il s'est promené dans son exil, il est allé en Allemagne, il est allé aux Pays-Bas, en Angleterre, il a beaucoup circulé, c'est un esprit encyclopédique, il a tout noté, tout retenu, et il est sorti de cette phase de réflexion, de brainstorming en disant « il y a quelqu'un derrière ces tableaux ».
Incroyable. Les tableaux de Vermeer ont été détournés, imités, copiés. On a l'impression que certaines de ses œuvres lui ont échappé pour devenir des images de la culture populaire, à l'instar de la marque La Laitière, mais aussi du roman de Tracy Chevalier sur la jeune fille à la perle. Comment vous expliquez ce phénomène ?
Ça, c'est la façon dont la culture actuelle, la culture contemporaine, digère l'ancien. Elle le digère en faisant des superstars. Ou alors en les abandonnant, mais avec Vermeer, c'est la superstar. Et donc, évidemment, vous avez raison, l'œuvre échappe à l'auteur. Mais tout mon travail, tout le travail des historiens, c'est d'essayer un petit peu de revenir à l'histoire au XVIIe siècle pour mieux comprendre et rétablir le fil.
Pour finir, les toiles de Vermeer, contrairement à leur créateur, ont-elles quitté la ville de Delft ? Elles sont aujourd'hui, et depuis le mois de février, exposées au Rijksmuseum d'Amsterdam, à guichet fermé, je suis au regret de vous l'annoncer. Le succès de Vermeer semble ne s'être jamais démenti depuis le 19e siècle. Qu'est-ce qui fascine encore aujourd'hui chez lui auprès du public ?
Alors je pourrais vous dire qu'il y a une grande qualité des œuvres de Vermeer, c'est qu'on peut y entrer de plein pied sans savoir grand-chose. Il y a une familiarité, il y a une humanité, il y a une beauté qui parle immédiatement. Et puis ensuite, c'est la voix des anges. C'est tellement beau.
Merci beaucoup, Blaise Ducos, d'être revenu avec nous sur ce maître de la peinture qui n'a jamais quitté sa ville natale de Delft, mais dont les toiles ont fait le tour du monde. Celles-ci sont d'ailleurs pour 28 d'entre elles visibles en ce moment même dans l'exposition événement qui est consacrée au peintre au Rijksmuseum d'Amsterdam. Et d'ailleurs, le Louvre a prêté la dentelière pour cette exposition, mais voilà, pour ceux qui ne peuvent pas faire le déplacement, au Louvre, d'abord, il y a d'autres chefs-d'œuvre à voir, et puis il y a toujours l'astronome.
Alors l'astronome en ce moment est à Abu Dhabi. Ils reviendront. Et on vous y accueillera avec
plaisir. Oui, j'adore aller au Louvre. Merci beaucoup.
Europe 1, Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern.
Tous les jours, vous le savez, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre.
Oui, aujourd'hui pour vous, j'ai une musique qui va mettre de la joie dans vos cœurs. Vous avez reconnu le chanteur
Gilbert Montagnier.
Gilbert Montagnier, exactement. Et là, je vais vous parler d'une publicité. D'après vous, ça vous fait penser à quoi, cette publicité? Enfin, cette air.
Une boisson.
On va fluncher.
Exactement.
Ah, bravo. Alors,
on va fluncher et on va parler de ce restaurant.
Ah ben, tout ça pour ça. Il a peut-être perdu la vue, mais il n'a pas perdu le goût non plus, Gilbert Montagnier.
Eh ben, écoutez, vous verrez, parce que... Je crois qu'ils ont été en procès pour ça. Parce qu'il
n'avait
pas donné son accord.
Intéressant.
Mais avant cet affrontement, je vais laisser la parole à Clémentine Portier-Kaltenbach qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret.
Dans l'intimité de l'histoire.
Et aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez le destin d'un homme qui a vécu une grande partie de sa vie à Paris et en fut même le premier maire à la Révolution, Jean-Sylvain Bailly. Et quand il s'est aventuré à quitter sa ville natale, ça ne lui a pas vraiment réussi.
Ben oui, Jean-Sylvain Bailly. Il est né donc à Paris en 1736 et mort à Paris en 91. 91, ça vous le laisse à supposer, une triste fin, une vie un peu abrégée. Il a été donc désigné maire de Paris à la Révolution, mais alors... chose extrêmement surprenante à nos yeux d'hommes modernes. L'élection du maire de Paris, maintenant, sont les élus des différents arrondissements qui le désignent. Mais lui, Bailly, il a été désigné par acclamation, figurez-vous. Bon, alors, oui, c'est quand même...
À l'applaudimètre.
Eh oui, exactement, à l'applaudimètre. Alors, avant de devenir maire de Paris, il s'était fait connaître comme savant. Et il est devenu savant, c'est ça qui est joli dans son histoire, complètement par hasard. Parce qu'il voulait faire de la peinture, il s'intéressait beaucoup au théâtre, il s'était mis vaguement à essayer d'écrire. Et puis, en peinture, en dessin, il était juste assez doué pour donner des petits cours de dessin à un jeune homme dont le père était un brillant mathématicien. Il s'appelait le père Moncarville. Et alors, à force de donner des cours de dessin au fils, il s'est intéressé aux maths et il a proposé au père d'échanger des cours de dessin contre des cours de maths. Ça se ferait assez facilement de nos jours. Et puis, sur sa lancée, comme il commence à s'intéresser aux sciences, il va en venir à suivre les cours du plus grand mathématicien et astronome de son temps, Alexis Clairaut. Alexis Clairaut, encore un phénomène incroyable, nommé à 18 ans à l'Académie des sciences, et il avait réussi, avec les moyens de l'époque, à prévoir à 15 jours près le retour de la comète de Halley pour 1782. Un génie absolu, Alexis Clairaut. Bon, lui aussi, son nom est parti derrière le voile de l'invisible. Alors en 1763, notre Bailly, qui a 27 ans, présente à l'Académie des sciences ses observations sur la Lune, suivies d'autres travaux qui vont le classer parmi les premiers astronomes de son temps. Il a bien fait de renoncer à la peinture, vous êtes d'accord. Et en 77, il publie ses lettres sur l'origine des sciences et l'Atlantide de Platon. Fort de cette notoriété acquise dans les sciences, il se met à écrire. Et oui, parce que c'est un peu un polymathe, il sait tout faire. Alors il publie des éloges de Charles V, de Molière, de Corneille, de Leibniz, de Cook, entre deux observations de la Lune. Et bientôt, il est membre des trois plus grandes académies. Académie française, Académie des sciences, Académie des inscriptions et belles-lettres. Vous en connaissez beaucoup, gars qui... Le premier maire de Paris. Bailly, et personne ne se souvient de lui, le pauvre gars. Alors la Révolution, hélas, le propulse dans la politique. Il est électeur de son district, il est élu premier député du tiers-état de Paris et doyen du tiers-état, parce qu'il est déjà un monsieur assez âgé. Le 20 juin 1789, qu'est-ce qui préside la fameuse séance du jeu de paume où là, Mirabeau dit « nous sommes en ici ».
Nous ne sortirons que par la phrase.
Exactement. Alors, qui préside cette assemblée? C'est Bailly. Qui est le premier à prêter serment ce jour-là? C'est Bailly. Et qui est désigné comme président de l'Assemblée nationale?
C'est Bailly,
voilà, c'est bien les garçons, bravo. Alors le 15 juillet à l'hôtel de ville de Paris, c'est donc Bailly qui est élu par acclamation d'une assemblée complètement hétéroclite d'électeurs et de députés, bravo, hourra, ça y est, maire de Paris. Et deux jours plus tard, qui reçoit le roi à l'hôtel de ville en lui mettant une petite cocarde bleu-blanc-rouge cette
scène. C'est Bailly.
Voilà, bravo, hein, un bon point chacun. Et le 25 août, Bailly prête serment devant Louis XVI. « Sire, je jure à Dieu entre les mains de votre majesté de faire respecter votre autorité légitime, de conserver les droits sacrés de la commune de Paris et de rendre justice à tous. » Oula, beau programme politique, mais comme on le sait, ça va se gâter. D'abord parce que comme maire de Paris, il se retrouve au sein d'une administration complètement... perdu, si vous voulez, désorganisé. Et il y a de gros problèmes d'intendance. Il y a quand même une population parisienne de 700 000 âmes. Il faut les nourrir. Et le pauvre Bailly, ben, il s'en sort pas. Alors, et puis, entre-temps, il y a la fuite à Varennes. Alors là, la situation dans Paris se dégrade rapidement. Et Bailly, avec Lafayette, fait opposition à la foule qui réclame la déchéance du roi. Et Bailly instaure la loi martiale. Et il mate l'insurrection du Champ de Mars. Alors là, ça signe le début de la fin, parce que ça va lui être évidemment reproché. Et ça se passe le 17 juillet 1791 au Champ de Mars. Il était donc maire de Paris depuis 2 ans. Alors là, comme il sent quand même, ça commence à sentir le roussi, il démissionne de toutes ses fonctions. Et là, eh ben, il quitte Paris. En effet, il part à Nantes et ça ne va pas lui porter bonheur. Il va tâcher de se cacher chez des amis. Mais il finit par être arrêté à Melun en septembre 93. Et le malheureux Bailly est cité comme témoin au procès de Marie-Antoinette. Mais comme c'est un homme bien, il refuse de témoigner à charge contre elle. Bah, et ça signe son arrêt de mort. Alors qu'en plus, on lui attribue le massacre des sans-culottes au Champ de Mars. Donc là, il est cuit, le malheureux. Il est condamné à mort et les conditions de son exécution sont elles aussi assez exceptionnelles parce qu'on a enlevé la guillotine de la place de place de la Concorde. Bon, on l'emmène la guillotine au Champ de Mars parce qu'on a l'intention de guilloter Bailly au lieu même où lui-même a fait couler le sang des républicains, des sans-culottes. Ce jour-là, on est en novembre, il pleut des cordes. Bailly doit subir pendant des heures les insultes, les crachats et les coups aussi d'une foule déchaînée contre lui. Et la tradition rapporte qu'arrivé sur le lieu de l'exécution, on le vit frissonner et trembler. Oui, je le répète, on est en novembre. « Oui, mon ami, je tremble », aurait-il dit à l'assistant du bourreau, mais c'est seulement de froid.
Merci Clémentine. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où je me dis en mon fort intérieur, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je réponds à vos questions, Jean-Luc?
Oui, parce que c'est un quiz d'histoire, Stéphane, et que c'est votre passion. Si je pose des questions et que vous ne répondez pas, déjà l'intérêt va être très limité. En plus, on n'apprendra jamais rien.
Bon, dans ce cas-là, je veux bien me sacrifier.
Monsieur est trop bon. Allez, jouons. Une question pour vous, Stéphane. Est-ce que vous voulez que je vous emmène en voyage?
Allez.
Allez, partons pour Anglos. Anglos, c'est une commune dans les Hauts-de-France. Et je sais que vous êtes très sensible à ça. Elle est classée 3 fleurs au concours des villages fleuris.
Ah, très bien.
En 1971, à Anglos, c'est la Révolution. Car c'est ici que va ouvrir le premier restaurant Flunch. Voici mon affirmation. Flunch est presque une antonomase. Axel Funch, pas Flunch, Funch, a 48 ans quand il monte l'affaire. Vrai ou faux?
Bah, je suis bien contente qu'elle ne soit pas pour moi, ouais. Celle-là. Hein.
Vous pensez qu'il y a un monsieur Funch derrière Flunch?
C'est ma proposition, en tout cas.
Mm. Bah, oui, mais
il a
en
juste
même
rajouté
temps,
un L.
Flunch, ça ressemble à lunch.
Oui. Pour moi, non. Pour moi, Flunch, ça veut dire autre chose.
Vous ne pensez pas que ça vient d'un nom de famille?
Non.
Sûr?
Bah, franchement, si on était sûr, on ne serait pas là.
Oh, comme c'est bien dit. Bon, écoutez, on vérifie la réponse.
Vous avez... gagné!
Vous avez bien fait de ne pas me faire confiance. Flunch, c'est la contraction de fast and lunch.
Un lunch rapide.
La marque de restauration française a d'ailleurs perdu son procès, on en parlait tout à l'heure, contre Gilbert Montagnier. Ce dernier n'avait jamais donné son accord pour l'utilisation de sa chanson « On va s'aimer » qui avait été transformée en
« On va fluncher ».
Exactement, on la connaît tous. On va parler mythologie grecque avec vous, Clémentine. Zeus est le frère de...
Ah, je sais plus ça.
Poséidon.
Ah, mais oui.
Voilà. C'est d'ailleurs eux qu'on retrouve sur les emballages du fromage Caprice des Dieux depuis sa création en 1956. Vrai ou faux?
Non, c'est deux petits anges, non? Sur les Caprices des Dieux. Écoutez, je n'ai aucun souvenir de ça. Peut-être dans les emballages à l'origine, mais moi, je vois plutôt des petits anges, moi, sur les Caprices des Dieux. Non, je réponds non.
On reste là-dessus?
Oui.
Allez, on reste là-dessus.
Vous savez. Gagné.
Vous avez complètement raison pour tout. Au début, oui, il y avait Zeus et Poséidon, mais ils ont ensuite été remplacés par des anges. En 1920, Joseph Bongrain décède. Son fils Jean-Noël reprend les rênes de la fromagerie. En 1956, c'est le lancement officiel du Caprice des Dieux au prix de 50 centimes.
Maintenant, c'est devenu un fromage cher, le Caprice des Dieux.
Voilà. Une question pour Stéphane. La langue écrite des Indiens d'Amérique du Nord s'appelle le syllabaire Cherokee. Il a été inventé entre 1809 et 1821. Et chose très étonnante, il a été créé par une seule personne, un orfèvre du nom de Sequoia. Vrai ou faux ?
Eh ben, dis donc, vous vous rendez compte, là, toutes ces hypothèses accumulées telles un millefeuille. Donc, c'est un langage d'une minorité amérindienne, mais qui aurait été créé dans les années 1800.
Entre 1809 et 1821.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un créneau de 10 ans pendant lesquels on invente la langue.
Et le type, il porte le nom d'un arbre.
Et en plus, il s'appelle Sequoia, le gars.
Ouais, voilà, exactement. Vous avez tout compris. En tout cas, ça ne s'écrit pas comme un Sequoia. Ah.
C'est tellement bizarre que j'ai envie de répondre oui. Instinctivement, je dirais oui.
Et Dieu sait que votre instinct vous a toujours porté bonheur.
But perhaps so,
instinctively, you say
yes.
Yes.
Vous avez encore gagné.
Voilà. Votre instinct est infaillible. L'alphabet contient 86 lettres.
Ah.
Et dans une grotte du Kentucky, on a trouvé des écritures Cherokee. Il est fort probable qu'elles viennent de la main même de Sequoia. En 2021, on a constaté que la langue est menacée d'extinction. Les 2000 personnes qui la parlent encore ont une moyenne d'âge de 67 ans.
Oui. Mm-hmm. Et ils ne l'apprennent pas à leurs enfants et aux petits-enfants.
Visiblement, non. Ce qui va être terrible, c'est pour le dernier qui parle la langue. Il parlera tout seul.
Le dernier des Mohicans.
Voilà. Il parlera tout seul dans son coin. Une question pour Clémentine. Attention Clémentine, je vous rappelle que Stéphane mène par 2-1, mais vous pouvez égaliser. C'est aux États-Unis en 1917. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1917 ?
L'entrée en guerre des États-Unis.
Il a été constaté aux États-Unis pour la première fois et officiellement et scientifiquement le phénomène humain et médical de l'éjaculation précoce.
D'accord, moi je...
Ah oui, ça c'est autre chose que, que
l'entrée en guerre des États-Unis.
C'est une autre guerre.
Dans la Première Guerre mondiale.
C'est un combat plus solitaire. Ouais.
Donc, alors c'est un...
On a appelé les personnes qui en souffrent les 4-minute men. Monsieur 4 minutes.
D'accord.
Est-ce vrai ou faux ?
Alors c'est vrai que ça aurait été diagnostiqué par un médecin pour la première fois en 1917.
Non, la question c'est, on a appelé les personnes qui en souffrent les 4-minute men.
Les hommes 4 minutes.
Oui, oui, pourquoi pas. 4 minutes, c'est déjà bien.
Bah, je suis d'accord, c'est déjà pas mal. Hein. D'après vous, les éjaculateurs précoces, c'était appelé les hommes 4 minutes.
Oui.
Ok,
why not ?
On reste là-dessus ?
Oui.
Vous avez perdu.
Oh, je suis désolé. Les 4 minute men ont bien existé, mais l'expression désignait les hommes capables en 4 minutes de convaincre avec un discours les Américains de soutenir l'effort de guerre.
Oh, bon, bah, d'accord.
Il y a eu 75.
Excusez-moi, mais moi, je ne connais pas d'éjaculateurs précoces et surtout américains. Donc, adios.
Au revoir, Clémentine.
J'ai même pas fini mon explication, mais qu'est-ce que vous êtes amer.
Mais alors, je reviens, allez-y.
Il y a eu 75 000 4-minute men et ils ont prononcé 750 000 discours. Ça va, ça fait 10 discours par personne. C'est une moyenne.
Ah, et comment on appelait les éjaculateurs précoces?
Je pense que, de toute façon, pour un éjaculateur précoce, tenir 4 minutes, c'est énorme.
Oui.
Voilà.
C'est pas grave, Clémentine.
Je réviserai la prochaine fois.
On vous aime quand même.
Pas beaucoup en ce moment.
Ouais. C'est vrai, ça fait 3 fois, 3 ou 4 fois que je perds.
J'ai calculé, votre dernière victoire date de 1982.
Historiquement, votre continue avec nos personnages du jour qui ont vécu toute leur vie dans la même ville.
Europe 1,
historiquement vôtre.
Le récit. Stéphane Bern.
Si son talent et l'importance de son œuvre littéraire sont aujourd'hui reconnus, cette poétesse américaine de renom depuis la fin du XIXe siècle était pourtant inconnue de son vivant. Je vous raconte maintenant une plume qui a vécu presque toute sa vie dans la même ville des États-Unis où elle a passé ses dernières années enfermée dans sa chambre à écrire, Emily Dickinson. Nous sommes en 1886 dans la petite ville austère d'Amherst, dans l'état du Massachusetts, au nord-ouest des États-Unis. À l'étage de la maison familiale des Dickinson, une dame de 55 ans, toute vêtue de blanc, se penche à la fenêtre pour offrir des caramels et confiseries aux enfants du voisinage. C'est une drôle d'âme que cette recluse, dont tout le monde salue certes l'intelligence, mais déplore l'originalité. Dans la ville, on la surnomme la nonne d'Amherst, car cela fait plus de 10 ans maintenant qu'elle ne quitte presque plus jamais sa chambre. Sauf quand le jour tombe, pour aller se promener dans son jardin et soigner ses fleurs. À Amherst, personne ne sait encore, surtout pas elle, qu'elle sera un jour reconnue comme l'une des plus grandes poétesses américaines de son temps. Si Emily Dickinson mourra cette année-là, elle n'a pas toujours vécu enfermée, mais a vécu, c'est vrai, toujours là. Née le 10 décembre 1830 à Amherst, où sa famille est ancrée depuis les premières heures des 13 colonies d'Amérique, Emily passe son enfance dans la maison bâtie par son grand-père, Samuel Fowler Dickinson, entouré de son grand frère Austin et de sa sœur Lavinia, de 2 ans sa cadette et dont elle est très proche. Son père, Edward Dickinson, est un avocat consciencieux, une personnalité publique investie dans les institutions de la ville et la vie politique de l'État du Massachusetts, comme l'avait été son père avant lui. Au cours de sa vie, il sera même élu au Congrès des États-Unis. Emily Dickinson est très attachée à lui, même s'il est un homme autoritaire. Lorsque sa santé fragile l'oblige à rester à la maison, elle lui prépare des puddings. Grand lecteur, lui offre des livres à sa fille. En grandissant, Emily Dickinson lira Shakespeare, les sœurs Brontë, entre autres. Quant à sa mère, Emily Norcross, la jeune fille ne s'en sent pas proche. C'est comme si une frontière invisible séparait toujours Emily Dickinson des autres. Même son père ne voit pas que sa fille a un don. Trop terre à terre, peut-être. Pourtant, dans ses rêves, Emily Dickinson laisse entrevoir la part de rêve et de poésie qu'il habitait, lui, lorsqu'il s'émerveillait devant un coucher de soleil ou tenait à nourrir les moineaux de passage dans leur jardin enneigé. Le jardin, la neige, les oiseaux, Emily Dickinson en fait justement des thèmes récurrents de sa poésie. Dans sa jeunesse, la nature la fascine tant qu'elle constitue un herbier de plusieurs centaines d'espèces de plantes. Quand commence-t-elle à griffonner des rimes à la gloire de cet univers qui l'enivre ? À écrire de la poésie partout, sur des petits morceaux de papier ou des cartons d'emballage ? Vers l'âge de 11 ans. Alors que sa famille a déménagé dans une autre maison du quartier, Emily Dickinson quitte l'école primaire pour intégrer l'académie d'Amherst. Puis l'année de ses 17 ans, elle est pensionnaire au séminaire de Mount Holyoke, à South Hadley, où elle impressionne les autres élèves par son esprit libre et fin. Emily le quitte en 1848 pour retourner vivre définitivement dans sa ville natale. Comme sa petite sœur Lavinia, Emily ne se mariera jamais. Alors que leur frère aîné construit sa vie de famille dans une maison du voisinage, les deux femmes resteront vivre avec leur père jusqu'à sa mort en 1874 et leur mère, victime d'une attaque 1 an après le décès de son mari, qui la paralyse jusqu'à la fin de sa vie. Pendant 7 ans, ses filles s'occuperont d'elle. Lavinia dirige la maison, tandis qu'Emily sort de plus en plus rarement de sa chambre, préférant la solitude à la compagnie d'un époux. En amour, Emily Dickinson vit de son imagination et d'espoir déçu, dont elle imprègne ses poèmes. À 24 ans, sur le chemin du retour d'un voyage à Washington avec ses parents et sa sœur Lavinia, l'écrivaine était tombée amoureuse. Ce jour-là, la famille fait alors étape à Philadelphie. Et à l'église, le pasteur Charles Wadsworth la subjugue. Elle a 16 ans de plus qu'elle et est déjà mariée. Leur relation restera épistolaire, ponctuée de quelques rares visites, mais l'amour que ressent Emily laisse de profondes marques dans son œuvre et dans sa vie. En 1862, lorsque le révérend Charles Wadsworth quitte Philadelphie pour une paroisse de San Francisco, en Californie, Emily Dickinson commence à s'isoler du monde. À cette date, son esprit semble loin de la guerre civile qui enflamme alors les États-Unis, divisant le Nord et le Sud. À 31 ans, elle s'attriste du nombre de morts qui augmente, mais ne commande guère plus le conflit, ni dans ses lettres, ni dans ses poèmes. Les textes de l'américaine abordent des sujets atemporels, la nature, les fleurs, le jardin, les oiseaux, la neige, la tristesse, la mélancolie, la vie, la mort, la maladie, la religion. Emily Dickinson ne parle jamais d'elle directement. Elle recherche plutôt, dit-elle, une vérité oblique. Sa propre personne l'intéresse peu. Elle l'écrit. « Je suis personne, qui êtes-vous ? Êtes-vous personne aussi ? Alors nous faisons la paire. Silence, on nous chasserait, vous savez, que c'est terrible d'être quelqu'un, que c'est commun, comme une grenouille, de dire son nom tout au long de juin. » Au marais qui admire. Emily Dickinson n'est encore personne et elle ne cherche pas à devenir quelqu'un. Mais cela ne l'empêche pas de quémander des avis sur ses vers. Si l'année 1862 marque le début de sa vie recluse, elle est aussi celle de sa correspondance avec Thomas Wentworth Higginson, essayiste et poète américain célèbre de l'époque. Dans une première lettre, Emily Dickinson lui envoie quelques poèmes pour lui demander s'il les trouve vivants. Mais Higginson peine à comprendre la profondeur de celle qui lui écrit. Il juge son style fantasque et s'irrite de son excentricité qu'il retrouve dans ses œuvres. Ses textes n'ont pas de titre, sont étrangement scandés par des tirets et leur rime lui semble désordonnée. Il lui déconseille de les publier. Contrairement à lui, Mrs. Helen Jackson, amie d'Emily Dickinson, connue pour ses écrits dans les années 70 et 80, tente de la convaincre de publier ses poèmes. Mais la nonne d'Amherst s'obstine à refuser. Au cours de sa vie, Emily Dickinson a discrètement signé au moins 1775 poèmes, assemblés ensuite par ses soins sous forme de fascicules. Seule une dizaine d'entre eux ont été publiés de son vivant. Lorsqu'elle s'éteint, à l'âge de 55 ans, le 15 mai 1886, dans sa maison de famille, où elle était revenue vivre à 25 ans, son entourage découvre le reste de son œuvre monumentale. Un premier recueil est publié en 1890. Il remporte un succès qui ne manque pas de surprendre Higginson. C'est peu dire que l'écrivain manquait de flair et qu'Emily Dickinson, quant à elle, ne manquait pas de talent.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler d'Emily Dickinson, nous sommes avec une romancière qui lui a redonné vie dans deux très beaux livres. Bonjour Dominique Fortier.
Bonjour.
Vous êtes romancière et vous avez publié deux ouvrages qui rendent hommage à Emily Dickinson, « Les villes de papier », qui a d'ailleurs reçu le prix Renaudot Essai, et plus récemment « Les ombres blanches ». Quand avez-vous entendu parler d'Emily Dickinson pour la première fois et quels souvenirs vous a-t-elle laissé ?
J'ai entendu parler de Dickinson quand j'étais adolescente. J'avais 14 ou 15 ans. Je me rappelle encore de cette journée. Il y a quelqu'un qui s'appelle Christian Vézina qui était venu à l'école nous raconter des poèmes. Et ça a été ma première rencontre avec, avec Dickinson. Il nous avait récité « L'herbe a si peu de choses à faire que je voudrais être un foin ». Et moi, je suis pas une très grande lectrice de poésie dans la vie. Je suis plutôt une romanesque. Donc, c'est une présence qui m'a suivie d'une manière un peu, un peu évanescente, une présence un peu absente jusqu'à il y a quelques années, alors que j'étais en train d'essayer d'écrire un roman très compliqué, une très grosse machine avec beaucoup de morceaux, et que cette figure-là m'est revenue, presque pour me sauver en fait de mon gros livre, mais cette figure très simple d'une femme habillée tout en blanc, toute seule dans sa chambre. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que c'était son histoire à elle que je voulais raconter.
Vous écrivez en préambule de votre premier livre qu'aujourd'hui, alors que nous sommes assaillis par des images, il est stupéfiant de songer que de celle qui fut l'une des plus grandes poètes de son pays, il n'existe qu'une seule photographie prise à l'âge de ses 16 ans. Pour toujours et à jamais, elle ne sera que ce visage, mieux, ce masque. En effet, on sait très peu de choses d'elle. C'est cette image de la poétesse recluse et solitaire qui vous a donné envie d'en savoir plus sur elle, d'aller finalement au-delà des apparences ?
C'est un peu paradoxal, hein, parce que effectivement, Dickinson, tout au long de sa vie, elle était un mystère. Elle a toujours refusé de publier. On n'a qu'une seule photo d'elle, ce qui est comme surréaliste. Puis en même temps, cette photo-là est presque en train de la détrôner d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'elle est maintenant tellement célèbre que c'est comme si elle prenait la place de ses poèmes. Dickinson, elle est en train de devenir une figure de la culture populaire, un peu comme Frida Kahlo, mettons, dont on connaît aussi le visage, mais dont on oublie un peu la peinture. Donc pour moi, c'était important de raconter, oui, sa vie, son destin, parce que c'est très particulier, mais aussi de faire connaître sa poésie, qui n'est pas si connue dans le monde francophone, je pense.
Gavin, vous avez eu envie d'imaginer l'existence d'Emily Dickinson dans les villes de papier, du moins ce qui se passait dans sa tête. Comment vous êtes-vous documenté pour écrire ce livre?
De toutes sortes de façons, de l'intérieur et de l'extérieur, je dirais, c'est-à-dire que Dickinson, c'est une figure importante, donc il y a plusieurs biographies qui lui sont consacrées, des biographies pleines de trous, donc elles sont fascinantes parce qu'on peut les remplir de toutes sortes de manières, mais je me suis surtout servie de sa correspondance, qui est très abondante et qui est fascinante, parce que vous disiez tout à l'heure qu'elle a commencé à écrire de la poésie à l'âge de 11 ans. Les premières lettres qu'on a datent de cette époque-là aussi, puis on se rend compte que très tôt, adolescente, elle est déjà Emily Dickinson et qu'elle écrit dans ses lettres comme elle écrit ses poèmes. Donc je l'ai exploré un peu comme ça, je dirais plutôt de l'intérieur, parce que ce qui est fascinant avec elle, on disait tout à l'heure, c'est que c'est une existence où il n'y arrive rien, en fait. C'est une femme qui va mourir dans la maison où elle a vu le jour, puis en même temps, on sait bien qu'il se passe beaucoup de choses. Donc, l'essentiel, en fait, c'est ce qui va se passer à l'intérieur de sa tête, à l'intérieur de son cœur. Moi, ce que j'ai essayé de raconter, c'est comment elle a créé son œuvre dans la solitude, comment ça se fabrique, de la poésie.
Jean-Luc. Stéphane est revenu dans le récit sur les thèmes de prédilection d'Emily Dickinson, la nature, les fleurs, les oiseaux. Ça peut paraître paradoxal qu'une femme cloîtrée dans sa chambre écrive sur la nature. A-t-elle déjà écrit des poèmes plus personnels où elle évoque ses émotions, ses pensées ?
Dickinson, elle ne parlait pas souvent d'elle, mais sur la nature, elle disait ceci qui est très beau. « La nature est une maison hantée, mais l'art est une maison qui tente d'être hantée. » Ça résume assez bien son rapport à la fois à la nature, mais surtout à la poésie, c'est-à-dire qu'elle trouve la vraie beauté dans la simplicité d'un coucher de soleil, d'un jardin. Et puis, c'est ce qu'elle s'efforce de recréer d'une certaine façon par la poésie.
J'ai cité un extrait d'un poème d'Emily Dickinson dans mon récit et on voit que celui-ci n'est pas très évident à lire et à comprendre parce qu'il contient beaucoup de tirets entre certains mots ou morceaux de phrases. Quel message voulait-elle faire passer selon vous à travers cette forme très originale ?
C'est vrai que quand on parle de poésie, encore plus que quand on parle de roman, on a tendance à opposer la forme et le fond. J'ai l'impression que chez elle, le fond, c'est la forme, en fait. Que ce qu'elle essaie d'exprimer, c'est d'abord sa voix, c'est son souffle à elle. Et moi, j'ai l'impression de l'entendre respirer à travers ces tirets-là. Vous avez raison de dire que leur usage est un peu extravagant, en tout cas qui dépasse de beaucoup l'usage commun. C'est aussi la réflexion que vont se faire ces premiers éditeurs quand ils vont décider, en fait, d'en enlever plein en se disant « c'est pas très correct grammaticalement, on va essayer de redonner une forme plus polissée à ces textes, ça va être plus facile à lire ». Et donc, il a fallu attendre 1955 avant d'avoir une édition qui rétablit sa ponctuation, son souffle à elle, qui est très singulier.
Mmh. Oui, parce que vous rendez également hommage à toutes les femmes qui ont permis à Emily Dickinson d'être la figure littéraire qu'on connaît aujourd'hui à titre posthume, parmi lesquelles il y a sa sœur Lavinia et la femme de son frère Austin aussi. C'est la famille qui a décidé de publier les récits, les écrits d'Emily.
C'est assez fascinant, en fait, que cette aventure de publication, parce que de son vivant, Dickinson, elle n'avait jamais cherché à faire publier ses poèmes. Donc, à sa mort, c'est sa sœur Lavinia qui va découvrir les milliers de poèmes qu'elle laisse derrière elle et qui va décider de les publier. Même si Emily lui avait demandé très explicitement de détruire tous ses papiers privés, elle n'avait pas laissé d'instructions quant à sa poésie. Donc, Lavinia va d'abord contacter Susan, qui est la femme d'Austin, donc la belle-sœur d'Emily. Celle-ci ne sera pas capable, en fait, de l'aider et elle va se retourner vers la maîtresse d'Austin, Mabel Loomis Todd, qui, elle, va travailler avec Higginson à l'édition des poèmes d'Emily. Donc oui, il a fallu, dans le cas de cette œuvre-là, beaucoup de gens pour créer le livre, en fait. Et c'est un cas à peu près unique dans l'histoire de la littérature que cette œuvre qui apparaît après la mort de son auteur.
Et est-ce que le succès a été tout de suite au rendez-vous aux États-Unis?
J'ai le goût de vous dire, étrangement, oui. Le premier tirage, qui n'était pas si important, à peu près 500 exemplaires, a été écoulé presque tout de suite. On a fait 11 réimpressions de ce premier tirage-là. 2 ans plus tard, on a fait une deuxième édition avec une centaine de poèmes qui n'étaient pas inclus dans le premier volume. Et puis, on en a fait une troisième en 1896. Et ces poèmes ont toujours été disponibles depuis ce temps-là.
Et pour finir, le mieux est de lui laisser le mot de la fin et à travers votre voix, Dominique Fortier, auriez-vous un poème ou quelques lignes signées d'Emily Dickinson que vous aimeriez partager avec nous?
Avec grand plaisir. Donc Dickinson n'a donné jamais de titre à ses poèmes, je ne vais pas le faire à sa place, mais je vais vous lire quelques lignes. Je m'en vais au ciel, je ne sais quand. Ne me demande pas comment, je suis trop stupéfaite pour penser à te répondre. Je m'en vais au ciel, cela paraît tellement loin, et pourtant ça se fera. Aussi sûr que les troupeaux rentrent le soir sous la houlette du berger. Peut-être y vas-tu aussi, qui sait. Si tu arrives la première, garde-moi une petite place près des 2 que j'ai perdues. La plus petite robe m'ira et un rien de couronne, car on ne s'en fait pas avec l'habit quand on rentre chez soi.
Wow. Merci beaucoup Dominique Fortier d'être venu avec nous depuis Montréal et la belle province sur cette figure littéraire majeure aux États-Unis, qui n'a jamais quitté sa ville, mais qui a laissé un héritage considérable. Je rappelle vos 2 ouvrages qui lui rendent hommage, Les villes de papier et les ombres blanches, toujours disponibles chez Grasset. Merci beaucoup.
Un grand merci à vous.
Europe 1, historiquement vôtre.
Stéphane Bern.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, avec Jean-Luc Lemoyne, David Christel Lopez et Gavin Clementer-Ruiz, on réunit des personnages qui ont vécu toute leur vie dans la même ville. Après Johannes Vermeer et Emily Dickinson, vous nous racontez Jean-Luc. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit.
Bienvenue à Springfield, USA. Ce qui vous fait une belle jambe de USA, puisqu'il y a 34 villes qui portent ce nom hein, chez l'oncle
ah oui
Sam. 34 villes.
Non.
Si.
Comment on fait la différence ?
C'est pas aux mêmes endroits.
Il faut mettre l'État ensuite. Ouais,
exactement. Mais là, je vous parle de la plus connue, une ville fictive fondée par Jebediah Springfield, un célèbre pionnier qui, jadis, a tué un ours à main nue. Une statue immortalisant la scène trône d'ailleurs devant l'hôtel de ville. Avec une population de 60 000 habitants, elle est souvent qualifiée de pire ville des États-Unis, mieux de trou de balle de l'Amérique, ou encore de ville la plus méchante du monde. Avec de tels qualificatifs, vous imaginez bien qu'il m'était impossible de ne pas m'y intéresser. Moi, tout ce qui est hors norme, qui gratte et qui dérange, j'adore. Et oui, la veste en tweed de Stéphane aujourd'hui coche aussi toutes ses cases. Mais au-delà de la ville, ce sont ses habitants dont nous allons parler. Et plus précisément, d'une famille qui habite au 742 Evergreen Terrace depuis 34 saisons, les Simpson. Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie, tout le monde les connaît. De votre boulangère à Siri, en passant par Catherine Deneuve. Si vous ne les connaissez pas, vous n'êtes pas humain. Ou alors vous avez moins de 10 ans et vous êtes enfermé dans une cave et votre ravisseur vous force à écouter notre émission. Force à vous. Les autres, faites péter la cadette de Duff et la boîte de donuts. Les Simpson arrivent! Cette famille est la famille moyenne typique et dysfonctionnelle la plus célèbre du monde. Et ça fait 34 ans que ça dure. Je resitue vite fait, mais vraiment pour le principe. Homer, c'est le père maladroit, un peu à la ramasse, qui boit de la bière sur son canapé. Il travaille dans une centrale nucléaire. Il est marié à Marge Simpson, une mère au foyer typique de la classe moyenne américaine à la voix éraillée. Ils ont trois enfants. Bart, dont le vrai prénom c'est Bartholomew Jojo, donc nous l'appellerons Bart. C'est un garçon rebelle, pour ne pas dire insupportable, de 10 ans. 10 ans depuis 33 ans. Donc selon l'équipe des chiffres et des lettres, ça lui fait 43-44 ans au compteur. Ah bah oui, c'est un peu plus dérangeant comme ça. Mais en dessin animé, ça passe. Donc Bart est un garçon qui crée et se crée constamment des problèmes. Lisa est une petite fille très intelligente de 8 ans, devenue végétarienne et bouddhiste. Et Maggie, le bébé de la famille, tête sa tétine. Hein ? On reconnaît le bruit. Mais comment ça a commencé tout ça ? Les Simpsons, ou plutôt leur première version néandertalienne, grossièrement dessinée, ont vu le jour au printemps 1987 dans l'émission de variété et d'humour américaine The Tracey Ullman Show. Matt Groening, le créateur des Simpsons, a eu l'idée de cette famille toute jaune à la demande du producteur qui voulait diffuser de courts dessins animés entre les sketchs de l'émission. Rapidement, Groening s'inspire de sa propre famille pour créer les personnages, pour les prénoms et certains traits de caractère. Pas parce que ses parents sont atteints de jaunisse. D'ailleurs, le jaune, c'est l'idée d'un de ses collaborateurs à la suite d'un brief bien précis. Ne soyons pas conventionnels. Bim, ils sont tous devenus jaunes, presque fluo. Le but, c'était d'attirer l'œil quand les gens zapperaient de chaîne en chaîne. Et ça marche, car à l'époque, cette teinte est assez rare dans le monde de l'animation. Dans celui de la dermatologie, en revanche, un peu moins. Notamment quand on perd son furoncle.
Oh non, c'est dégueulasse.
Oh, écoutez,
pas le son.
On fait de la radio, il faut des sons, je suis désolé. Tout de suite, c'est un carton auprès des téléspectateurs et très vite, une série à part entière est envisagée, puis commandée. Et cette série, elle débarque sur la Fox en 1989 avec des épisodes de 30 minutes. C'est Danny Elfman, le compositeur fétiche de Tim Burton, qui compose le thème en deux jours. Les Simpsons viennent secouer l'establishment de l'époque en mettant en lumière les travers de l'Amérique. La satire est brillante, intelligente et terriblement drôle. Voilà, c'était juste pour illustrer mon propos. J'avais pas de bruitage. Vous auriez pu m'aider quand même. Oui. Groening tire à bout portant et avec génie sur tout le monde. Tout ce qui semble sacré ou intouchable constitue une cible parfaite. Il se moque autant des conservateurs que des libéraux, avec des personnages annexes comme Quimby, le maire corrompu de la ville, ou l'iconique Monsieur Burns, le diabolique businessman républicain qui contrôle tout Springfield et qui est officieusement le sosie d'Éric Zemmour. Le nombre de créatifs impliqués dans la réalisation de la série provoquerait un malaise vagal à n'importe quel directeur de production français. Plus de 200 animateurs, une trentaine d'auteurs et un orchestre de 35 musiciens donnent vie à Springfield et ses habitants. Sans oublier évidemment les acteurs qui prêtent leur voix aux personnages. En France, c'est Philippe Pétieux et Véronique Augereau qui double Marge et Homer Et le saviez-vous, ils sont en couple dans la vraie vie aussi. Mais les similitudes s'arrêtent là. Même s'il paraît que l'un des deux aurait une touffe de cheveux bleus. Mais pas sur la tête.
C'est nul !
Bah oui, je suis désolé. Depuis ses débuts, on ne compte plus les récompenses que la série a reçues et elle est entrée dans le Guinness des records pour sa longévité. Plus de 740 épisodes au compteur et quelques prédictions très troublantes. Trump président, c'était déjà annoncé dans les Simpsons en 2000. 3 ans avant la crise de la dette grecque, on pouvait lire dans le dessin animé « L'Europe vend la Grèce sur eBay ». Les magiciens Siegfried et Roy attaqués par leur tigre blanc, dans un épisode aussi. Le scandale de la viande de cheval, pareil. Stéphane Bern qui s'installe à Tyran Gardé, c'était en 1997 dans la série.
Non, je n'y suis pas.
Si. Par contre, les chaussettes Tekel couronnées qu'on peut commander en ligne, ils n'avaient rien vu venir. Ils ont de l'imagination, mais il ne faut pas pousser. Le magazine Time a qualifié la série comme étant la meilleure du XXe siècle et des hordes de fans à travers le monde s'emparent de tout ce qui est simpsonien, claquant des millions chaque année en paquets de céréales Krusty le clown ou en chaussons tue l'amour en forme de tête de Homer. Si c'est jaune, ils achètent. D'ailleurs, la chaîne Fox vient de renouveler la série jusqu'en 2025. D'ici là, on aura dépassé les 800 épisodes et quelque chose me dit que Homer, Marge, Lisa, Bart et Maggie ne sont pas prêts de déménager de Springfield.
Spider Pig does whatever a spider pig does. Can he swing from a web? No, we can't.
Il chante aussi juste que moi.
Look out,
merci beaucoup, Jean-Luc.
Plaisir.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui ont vécu toute leur vie dans la même ville pour retrouver deux chroniqueurs qui, eux, ont vu du pays. Même si aujourd'hui, David Cassé-Lopez, on reste à Paris avec vous puisque vous nous racontez les origines de celle qui domine la ville et qui fête ses 134 ans aujourd'hui.
Exactement.
Même.
Exactement.
Et ce n'est pas Anne Hidalgo dont on va parler, mais de la Tour Eiffel.
Oh oui, la Tour Eiffel, tout à fait.
Mais avant ça, comme chaque jour, mes aïeux, quelle époque. Aujourd'hui, on part à la découverte avec vous, Gavin Clément-Ruiz. On remonte en 1968 pour découvrir une cité utopique, utopiste même, qui a vu le jour cette année-là en Inde du Sud, pas très loin de notre comptoir de Pondichéry, la cité d'Auroville qui continue d'accueillir des habitants encore de nos jours.
Encore c'est et fou, encore, hein, oui, Stéphane. À l'origine, c'est plus qu'une ville, Auroville, c'est davantage une expérience unique de vie en communauté pour vivre différemment, ça c'est le projet. Et quand on arrive sur place, on se demande bien ce qu'on va vraiment y faire, hein, aujourd'hui encore. À part, au milieu, vous avez une grosse boule dorée au centre de la communauté, qui est le lieu de méditation, entouré de verdure, il n'y a pas grand-chose d'autre. Hein. Et le pari est gagné quelque part, parce que Auroville, ça se vit avant de se visiter.
Qui a créé alors Auroville ?
Eh bien, c'est Mira Alfassa, ou de son nom d'épouse Mira Richard. Elle était aussi surnommée la Mère, M-E-R-E, pour son parcours auprès du philosophe indien Sri Aurobindo. Et son souhait, en fait, c'était de créer une cité universelle, disait-elle, où hommes et femmes de tout pays devaient pouvoir vivre en paix. Ouais, tout cela en harmonie, au-dessus de toute croyance, toute politique et toute nationalité. On est en Inde, dans les années 68. Les habitants d'Auroville étaient, selon elle, des réfugiés spirituels. Auroville n'appartient à personne, mais à l'humanité. Chaque Aurovillien, c'est comme ça qu'on les nomme, se devait d'être serviteur de la conscience divine et favoriser la recherche spirituelle humaine.
Oui, enfin concrètement, sur le terrain, Auroville, ça ressemble à quoi ?
Eh bien, alors, pour construire Auroville, on a fait appel à un architecte français, Roger Auger, et le plan d'urbanisme représente la forme d'une galaxie tournante autour d'un point central. Alors, au centre se trouve le lieu de méditation dont je parlais tout à l'heure, la grosse boule dorée, appelée plus poétiquement le Matrimandir. Sa forme sphérique veut évoquer la perfection. Et tout autour, il y a 4 zones. La zone culturelle, la zone résidentielle, industrielle et internationale.
Alors, sur le papier, c'est beau, mais est-ce que ça a marché ?
Pas complètement, Jean-Luc. À l'origine, Auroville était prévue pour accueillir 50 000 personnes. Et aujourd'hui, la ville compte moins de 3000 habitants. Plus de 50 nationalités quand même hein, sont représentées sur place, en grande partie des Indiens, la moitié, mais aussi 400 Français environ, et chaque communauté a un sens. Alors il y a la communauté du courage, la communauté de la gratitude, de l'existence, etc., etc.
Mais tout le monde peut venir vivre à Auroville ?
Eh bien non, en fait. Il y a une période d'essai d'un an pour être accepté dans la communauté. En revanche, on peut en partir quand on souhaite. Et il y a un salaire minimum versé autour de 64 euros par mois. Et le reste revient à la communauté.
Parce que les gens travaillent à Auroville. On ne fait pas que méditer.
Non, non, on ne fait pas que méditer. C'est pas une secte hein, ou un regroupement d'illuminés. On pourrait y croire au début quand même, mais non. Chacun a sa tâche, sa mission pour la communauté. On travaille dans les secteurs, dans divers secteurs hein, de l'économie, du reboisement, du défrichage, mais aussi de l'artisanat dans certains secteurs aussi, à la pointe de l'innovation. Il y a notamment les énergies renouvelables. Il y a même des fermes bio sur place. Il y en a une qui produit de la spiruline. C'est ce produit énergisant à base d'algues. Idem, une société d'Auroville fabrique aussi des éoliennes pour l'approvisionnement en eau parmi les plus efficaces d'Inde. Auroville, en quelque sorte, c'est pas qu'une utopie et ses activités le prouvent.
Mais on peut créer une ville comme ça, hein, sortie de nulle part.
Bah, en fait, il a fallu attendre 1991 pour que Auroville ait un statut juridique légal, digne de ce nom, avec un conseil d'administration, avec notamment des membres du gouvernement indien et d'Auroville. Mais chaque communauté s'autogère et une partie des revenus de chacun est réintégrée aux besoins d'Auroville.
Pardon d'insister, mais si on veut juste venir y dormir sans attendre un an pour être coopté, c'est possible ou pas ça?
Ah ça, ouais, David, ça, pas de souci. D'accord. Carrément, il y a plusieurs types d'auberges hein, sur place, des guest house, comme on les appelle, pour vous accueillir. Vous pouvez rester un jour ou deux. C'est l'occasion aussi de croiser peut-être quelques Français hein, qui vous donneront leur vision des choses d'un point de vue local. Même si des doutes apparaissent de plus en plus ces dernières années dans la communauté quant à l'avenir même d'Auroville. Mais finalement, le doute dans une société, n'est-ce pas mieux que des certitudes ? Je vous laisse méditer.
Ouf. Merci beaucoup Gavin Scriventer-Ruiz pour cette visite guidée d'Auroville. Une ville utopiste d'Inde du Sud, née en 1968. Est toujours présente encore aujourd'hui. Mes aïeux, quelle époque!
Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
Les origines.
Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Gavin Scriventer-Ruiz, mais maintenant avec vous, David Castel-Lopez, puisque vous célébrez l'anniversaire d'une vieille dame aujourd'hui, et ce n'est pas celui de Clémentine Vortier-Kaltenbach qui a eu lieu il y a quelques jours, mais c'est bien celui de la dame de fer, la Tour Eiffel.
Chaque jour, pour venir à Europe 1, je passe devant la Tour Eiffel. Et sempiternellement, j'hallucine ma race. Et j'hallucine beaucoup plus ma race que devant plein de bâtiments plus hauts que la Tour Eiffel qu'il y a dans d'autres endroits du monde. Pourquoi ? Eh bien parce que la Tour Eiffel, certes, elle est haute, mais elle est surtout vachement plus haute que tous les immeubles qu'il y a autour. Et donc, face à ces immeubles tout petits, elle paraît immense. Ce qui nous rend fiers, nous, les Parisiens. Et on remercie du coup cette différence d'échelle comme un homme triste qui remercierait sa tendre amie d'avoir de petites mains, si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'avoue qu'il n'y a pas que ça de super dans la Tour Eiffel quand même. La Tour Eiffel, elle n'est pas que grande, elle est aussi belle. Parce que malgré sa taille, elle paraît légère. Et aérienne. On sent vraiment que si nous, les êtres humains, on ferait ne serait-ce que la moitié de la taille de Tour Eiffel, hein, si on ne faisait pas à 150 mètres de haut, on pourrait la soulever sans effort comme un gros lampadaire. Super design. Chaque année, il y a 7 millions de gens qui visitent la Tour Eiffel et qui la kiffent de toute leur âme. Et pourtant, la Tour Eiffel, au moment où elle a été construite, elle était encore plus controversée que l'immense bouquet de rectum de Jeff Koons qui trône depuis 2019 à côté du Grand Palais. Il y avait plein de gens qui trouvaient la tour d'une laideur totale. Et le plus brillant d'entre ces gens, je trouve, c'était Joris Karl Huysmans, peut-être un des écrivains français les plus brillants, qui, en 1889, a dit de la Tour Eiffel la chose suivante. « Cette tour ressemble à un tuyau d'usine en construction, à une carcasse qui attend d'être remplie par des pierres de taille ou des briques. On ne peut se figurer que ce suppositoire solitaire et criblé de trous restera-t-elle. La Tour Eiffel est vraiment d'une laideur qui déconcerte. » En 1887, 2 ans avant, quand le chantier était en train de commencer, il y avait même eu une pétition contre la Tour Eiffel, signée par plein de gens super connus, super respectés, qui en plus, des gens qui ont résisté à l'épreuve de la postérité. Émile Zola, Alexandre Dumas, Garnier, l'architecte de l'opéra, Gounod, le compositeur, tous, ils protestaient contre, je cite, « cette odieuse colonne de tôle boulonnée au nom de l'art et de l'histoire français menacée ». Et ils imaginaient les touristes qui visiteraient la Tour Eiffel dans le futur et qui diraient « Quoi ? C'est cette horreur que les Français ont trouvée pour nous donner une idée de leur goût ?» Ils vont se moquer, ça va être terrible. Mais la vérité, c'est que la polémique, à part pour Huysmans, elle s'est presque complètement éteinte au moment où la tour a été finie. parce que la tour, elle était complètement impressionnante. La taille de la tour en particulier a fait que tout le monde a halluciné, comme j'hallucine ma race à moi tous les jours en passant devant. À son inauguration, la tour Eiffel, c'était la plus haute construction du monde, presque deux fois plus haute que la deuxième sur la liste. Vous savez ce que c'est la deuxième sur la liste à l'époque ? Le monument à George Washington qui avait été inauguré 5 ans plus tôt, qui faisait 164 mètres au lieu de 300 pour la tour Eiffel. Et la tour Eiffel, c'est resté la plus haute construction du monde pendant plus de 40 ans, jusqu'à être dépassée par le Chrysler Building à New York en 1930. Et puis surtout, la tour Eiffel, ça a été un carton commercial immédiat. Il y a 2 millions de personnes qui l'ont visité en 6 mois. Et puis, les gens qui ne l'aimaient pas, au fond, ils pouvaient sans doute se consoler en pensant à ce à quoi ils avaient échappé. Parce que parmi les projets qui avaient été proposés à la place de la Tour Eiffel, il y avait par exemple un arrosoir géant placé au sommet d'un pylône pour arroser Paris en cas de grande chaleur, ou encore une guillotine de 300 mètres de haut. Ça aurait eu un côté un petit peu sinistre. Mais non, c'est la Tour Eiffel qui a gagné, conçue par deux ingénieurs de chez Eiffel qui s'appelaient Émile Nouguier et Maurice Koechlin, et par un architecte qui s'appelait Steven Sauvestre. Elle a été construite super vite, en 635 jours, parce que chez Eiffel, ils savaient faire. Ils savaient faire parce qu'ils avaient déjà fait des choses très semblables avec des piliers de pont, dont les piliers du fameux pont de Porto, que vous-même vous connaissez. Oui. Voilà. Et alors, vous savez, j'imagine que la tour Eiffel, elle avait pour vocation d'être détruite 20 ans plus tard, au bout de 20 ans. Et vous savez ce qui l'a sauvée ?
Oui, c'est la radio.
C'est la radio ! On a installé une antenne tout en haut qui a été ultra utile, notamment pendant la Première Guerre mondiale. Et évidemment, aujourd'hui, elle n'a plus trop besoin de se défendre.
Merci beaucoup, David.
Je vous remercie. Vous ?
Même si les Américains essaient toujours de la faire exploser dans tous leurs films.
Oui.
Il faudrait qu'on fasse un jour un recensement de toutes les fois où elle a été détruite.
Elle est mythique, c'est pour ça. Ouais. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient lundi dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages qui sont au courant. Thomas Edison, qui a notamment inventé l'ampoule électrique à filament et a fait passer du courant en continu dedans. Puis le mathématicien et philosophe au courant des avancées sur l'électricité qui a laissé sans le savoir son nom à la mesure de l'intensité de ce courant, André-Marie Ampère. Et vous, Jean-Luc ? Vous nous raconterez un groupe survolté.
Oui, des gars qui font du bruit, mais de la musique surtout aussi. Le groupe AC/DC, qui a mis du courant dans son nom.
Ah bon ?
Mais oui, je vous laisse réfléchir jusqu'à lundi.
Ah, c'est gentil. Passez un bon week-end et à lundi, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.